Catherine Dutu, bonjour.
Bonjour Olivia, bonjour à tous. Des défaillances matérielles mais aussi et surtout humaines, c'est ce que dénoncent ce matin des députés dans un rapport sur la sûreté des centrales et des réacteurs nucléaires en France, rendu plus vulnérable encore par un recours excessif à la sous-traitance. C'est ce qu'explique la députée En Marche Barbara Pompili, rapporteure de cette enquête parlementaire.
On est à 80% de sous-traitance, que les centrales soient en fonctionnement ou en maintenance.
Pourquoi c'est un problème ?
Tout simplement parce que on a un turnover et on a une perte de compétences chez EDF sur des sujets qui sont des sujets absolument essentiels, parce que c'est de la technologie avancée, le nucléaire. On a une perte de compétences, on a des problèmes aussi de perte d'informations, on a des problèmes de contrôle. Bref, on voit que cette question de sous-traitance, et on l'a montré dans plusieurs chapitres, entraîne en cascade un certain nombre de petites failles ou plus grandes failles qui, à force, pose problème dans un secteur où, encore une fois, il faut réduire le risque au minimum, même si évidemment le risque zéro n'existe pas.
Vous préconisez sur ce sujet d'internaliser au maximum les tâches, c'est-à-dire que ce soit des agents d'EDF qui fassent le travail et pas des sous-traitants. Ça changerait vraiment les choses, à votre avis ?
Oui, oui, beaucoup. Et d'ailleurs, enfin, j'ai une amie qui est syndicaliste et qui me disait, de toute façon, dans l'industrie, en général, quand on dépasse 25% de sous-traitants, en fait, on perd la maîtrise de notre outil. Et donc, il faut absolument qu'il y ait une réintégration d'un certain nombre d'outils, qui est de la sous-traitance sur certains points, c'est tout à fait normal. Mais du coup, on crée aussi deux catégories de personnes qui travaillent dans les centrales, qui n'ont pas tout à fait les mêmes droits, du coup, qui ne se sentent pas concernées de la même manière par les questions de sécurité. Et ça aussi, il faut l'harmoniser.
Barbara Pompili, députée En Marche, ancienne secrétaire d'État à la biodiversité et rapporteure aujourd'hui de cette enquête parlementaire sur la sûreté nucléaire. Elle répondait à Léa Salamé et les députés préconisent aujourd'hui une trentaine de mesures, créer par exemple une délégation permanente d'élus habilités secret défense pour aller vérifier les informations transmises par les exploitants à l'ASN, le gendarme du nucléaire. Leur fortune cumulée représente près d'un tiers du PIB de la France. Le montant cumulé des 500 plus grandes fortunes de France a été multipliée par 3 en 10 ans, atteignant un record de 650 milliards d'euros, selon le magazine Challenge, qui sort son classement annuel aujourd'hui. Sur le podium, Bernard Arnault, propriétaire du groupe de luxe LVMH, première fortune de France, la quatrième au monde. Viennent ensuite Alain et Gérard Wertmeyer, les deux propriétaires de Chanel, Axel Dumas, le gérant d'Hermès. Un plafond 650 milliards d'euros donc pour les 500 plus grandes fortunes de France, un plafond jamais atteint selon l'hebdomadaire. À l'autre bout de l'échelle sociale, 9 millions de Français vivent en dessous du seuil de pauvreté, selon l'INSEE. Le gouvernement a décidé de reporter les annonces d'un plan sur le sujet prévu la semaine prochaine. Hier, la ministre des Solidarités, Agnès Buzyn, a indiqué sur LCI que la présentation allait peut-être dépendre aussi des résultats de l'équipe de France à la Coupe du Monde de football et de la disponibilité d'Emmanuel Macron, qui s'est engagé à aller en Russie soutenir les Bleus s'ils arrivaient en demi-finale. La pauvreté n'attend pas, a répondu hier la présidente du Secours catholique. Quelques grandes lignes de ce plan contre la pauvreté pourraient tout de même être dévoilées lundi prochain par Emmanuel Macron lors de son discours devant le Parlement réuni en congrès à Versailles. Un congrès que vont boycotter plusieurs dizaines de députés de droite comme de gauche. Explication de Stéphane Robert.
Les premiers à avoir dit clairement qu'ils n'iraient pas sont les députés de la France insoumise. Ils ont décidé ça en groupe, tous ensemble. Éric Coquerel est l'un d'entre eux.
L'ancien régime, ça suffit, quoi. Aller écouter un président de la République tenir un discours auquel les députés ne peuvent même pas répondre, ça va, c'est une démocratie d'apparat. Nous, on est républicains et l'esprit de la République, c'est quand même pas d'avoir un monarque qui vient s'adresser aux représentants du peuple. Et donc voilà, on aura autre chose à faire.
Quelques députés socialistes estiment aussi qu'ils ont mieux à faire ailleurs. Et puis à droite également, une bonne quinzaine de députés Les Républicains, comme le Mosellan Fabien Di Filippo, ont décidé qu'ils n'avaient rien à faire à Versailles.
Je n'accepte pas ce phénomène de caporalisation du Parlement qui consiste à voir maintenant chaque année le président de la République venir nous donner les bons et les mauvais points et dire si on a bien travaillé ou pas et quels doivent être nos axes de travail pour l'année suivante.
Au sein du groupe Les Républicains, il y a eu un vrai débat. La moitié était pour, l'autre moitié contre. Et finalement, il a été décidé qu'il était préférable d'y aller au nom du respect des institutions. Pierre-Henri Dumont est député LR du Pas-de-Calais.
J'estime qu'il est du devoir des députés de venir pour respecter la fonction de président, mais qu'il est également nécessaire d'exprimer, s'il y a besoin, notre mécontentement, de pas applaudir, voire de quitter l'hémicycle du Congrès et de laisser mon siège vide en cours de discours si une orientation très antiparlementariste est prise.
Le problème est que ce discours n'a pas vraiment de sens ni d'intérêt, étant donné que le président, contrairement au chef du gouvernement, n'est pas comptable de son action devant les parlementaires, il n'a pas à leur rendre compte. Et donc Emmanuel Macron n'apparaîtra encore une fois que comme un monarque dans une mise en scène qui s'adresse à ses sujets.
Le régime syrien et son allié russe mènent depuis l'aube des frappes d'une intensité inédite depuis le début de l'offensive contre les secteurs rebelles de la province de Deraa, au sud de la Syrie. Échec hier des négociations parrainées par Moscou, le Conseil de sécurité de l'ONU se réunit en urgence aujourd'hui pour parler de la situation humanitaire, notamment avec 270 000 à 300 000 civils déplacés, contraints de fuir leur maison et l'intensité des combats. Retour en France avec une pratique bruyante et dangereuse, mal encadré par la loi. L'Assemblée nationale examinait hier un texte afin de caractériser les rodéos motorisés en délit avec 1 an de prison et 15 000 euros d'amende. Lucas Caltritti, l'objectif affiché est de dissuader les auteurs des rodéos motorisés qui sont souvent des jeunes.
Les rodéos urbains ne cessent d'augmenter 20% de plus en ce début 2018 comparé à l'année dernière. Et les députés veulent endiguer le phénomène. Mireille Clapeau, une des élues de La République En Marche à l'initiative de la proposition de loi, estime que pour dissuader, il faut toucher au matériel. Désormais, le véhicule pourra être saisi.
Les infractions qui étaient retenues jusqu'à maintenant, par exemple non-port de casque, vitesse excessive, ne permettaient pas de confisquer le véhicule et de l'immobiliser. Donc ça va être un grand progrès, parce que ça va permettre à la police, quand elle prend le conducteur en flagrant délit, ce qui n'est pas toujours le cas, d'avoir une action forte et démonstrative et dissuasive, qui est de laisser le véhicule sur place.
Et ce, même si le conducteur n'en est pas le propriétaire. Mais pour Hugo Bernalicis de la France Insoumise, qui est sensiblement favorable au texte, il ne faut pas y voir non plus une grande avancée.
Une affaire il y a 3 semaines à Lille, les personnes qui faisaient du rodéo sont passées devant le juge, certains sont en détention provisoire et les véhicules sont saisis. Donc ok, là il y a une forme de simplification, mais ne faisons pas non plus de ce texte en annonçant, en disant « demain il n'y aura plus de rodéo grâce à ce texte ». C'est pas vrai, parce qu'il faut des moyens conséquents pour constater l'infraction. Et c'est pas vrai qu'on est capable de mettre des gros dispositifs policiers dans le pays sans que ce soit au détriment d'autres impératifs et objectifs de la sécurité publique.
L'autre enjeu sera aussi désormais d'informer les jeunes du changement de législation. Les députés le reconnaissent, si nul n'est censé ignorer la loi, de la pédagogie au niveau local sera nécessaire, notamment de la part des villes et de la police municipale.
136 000 foyers sont toujours privés d'électricité ce matin en Nouvelle-Aquitaine après les orages d'hier, orages qui ont tué un homme de 64 ans en Corrèze. Et le temps d'aujourd'hui est toujours instable avec des orages marqués cette fois-ci dans le nord-est de l'Hexagone. Les températures sont comprises ce matin entre 15 et 20 degrés en général, un peu plus frais près de la Manche, avec 13 à 15 degrés, 21 à 22 en Corse et sur la Côte d'Azur. Cet après-midi, comptez de 21 à 26 sur une grande partie de l'Hexagone jusqu'à 32 près de la Méditerranée. Les journaux ont été réalisé ce matin avec Yacine Bouzard et François-Charles Domergue. Prochain journal de la rédaction, midi et demi, avec Stanislas Vazac.